Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et avec nos débriefeurs ce soir, je vous les présente tout de suite. Perle Bagot, bonsoir Perle.
Bonsoir.
Directrice générale de Hub Institute. À tes côtés, Alexandre Lebrun. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Co-fondateur et président de Nabla, assistant médical hein, que l'on connaît bien. On aura l'occasion peut-être de parler. Il y a un peu d'actu. On en dira un mot tout à l'heure. Et ancien chercheur IA chez Meta. Donc comme ça au moins, on aura quelques infos. Enfin, je ne suis pas à la source, mais en tout cas une analyse sérieuse de tout ça. Et puis analyse sérieuse aussi avec Hugo Borenstein. Bonsoir Hugo.
Salut.
Co-fondateur et président d'OMI, spécialiste dans la 3D, le métaverse. Je ne sais pas si tu as de l'actu aussi, on pourra en parler aussi ce soir. Alors messieurs, on va commencer avec Tesla, les résultats un peu catastrophiques de Tesla. Je disais, je cherche les chiffres, on va revenir dessus. Ils perdent... Oui, le bénéfice net en chute de 55% au premier trimestre. Alors ce que je vous propose, on va écouter un... ce qu'en dit Justine Vasseung, journaliste à la rédaction de BFM Business, et qui nous a fait un petit papier de préparation, et on va commenter tout ça. On l'écoute.
Le robotaxi est l'avenir de Tesla. C'est la conviction d'Elon Musk dans les cartons depuis des années. Les cybercabs, comme il les appelle encore, seront dévoilés le 8 août prochain. Leur production démarrera fin 2025. Les livraisons devraient-elles débuter l'année suivante? Elon Musk envisage même que les propriétaires de Tesla, 100% autonomes, les fassent fonctionner comme taxi quand ils ne les utilisent pas. Un pari que certains jugent risqué, car si certains robotaxis, ceux de l'américain Waymo par exemple, circulent déjà dans les rues de San Francisco ou de Los Angeles... D'autres s'y cassent les dents, c'est le cas de Cruise, filiale de General Motors, qui s'est vu bannir de Californie après un accident et qui a dû se séparer d'un quart de ses effectifs. Tesla n'est pas beaucoup plus heureux avec ses systèmes de conduite assistée. Le constructeur a dû récemment rappeler 2 millions de voitures car son autopilote était jugé défaillant. Selon le Washington Post, il aurait été responsable de 40 accidents mortels depuis 2016. Tout cela n'empêche pourtant pas Elon Musk de penser qu'à terme, ses robotaxis généreront plus de profit que ces voitures électriques.
Voilà, donc c'est assez paradoxal hein, ce qu'on a vécu hier soir avec les résultats de Tesla. Je disais un bénéfice net en chute de 55% au premier trimestre, 1,3 milliard de dollars quand même, et le chiffre d'affaires qui recule de 9% à 21 milliards de dollars. On a vu que il avait baissé les prix de ses voitures, le Cybertruck, on a l'impression que ça a un peu de mal. Il avait le modèle 2 et puis il a dit finalement on fera pas de modèle 2, mais on va faire un effort sur le modèle 3. Ça fait 5 ans quand même que Tesla n'a pas renouvelé un peu sa gamme de voitures. Je sais pas quel est votre premier regard dessus. Et puis, alors ça c'était ce qui va mal. Et ce qui va bien, c'est de l'autre côté. Il dit on va appuyer sur un modèle d'entrée de gamme. On va développer de l'IA. Et puis là, ben le cours est reparti comme en 40. Je sais pas Perle sur ce sujet là.
Bah, c'est vrai que Elon Musk de toute façon est le premier VRP de Tesla. Hein, donc dès qu'il prend la parole avec conviction et qu'il annonce et contrebalance un peu tous ses chiffres, on y croit forcément. C'est lui qui va chercher et qui porte la parole auprès des investisseurs. Après, c'est vrai que ça a été l'un des précurseurs sur la voiture électrique. Aujourd'hui, ils sont extrêmement challengés par les acteurs asiatiques, chinois, qui sont sur le devant de la scène, d'ailleurs, qui lui sont passés devant. Hein. Donc, il y a un enjeu à la fois de renouvellement des modèles et en même temps, bah, effectivement, comme il y a plusieurs acteurs, il faut revoir un peu les prix, il faut revoir la manière de produire. Comme ce qui était dans le reportage, il y a eu quand même un certain nombre de retours sur des problèmes techniques. Donc c'est pas évident. En même temps, voilà, lui il reste très convaincu de l'importance en fait de continuer d'être sur le coup d'après. Hein. C'est ce qu'il dit souvent d'ailleurs dans la manière de se positionner. C'est ok, là il y a ces problèmes actuellement, mais en fait moi je vois plus loin et moi j'investis sur plus loin et notamment la voiture
autonome. Les robotaxis,
voilà, exactement. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Après effectivement il y a une période cruciale pour Tesla qui est challengée par des acteurs asiatiques et les ventes s'en font ressentir aussi bien que la rentabilité.
C'est pour ça qu'il insiste sur le robotaxi, sur l'IA. Il veut pas tomber dans le fait d'être un constructeur comme les autres finalement, avec un peu plus d'innovation. Mais voilà, maintenant que tout le monde commence à faire de l'électrique, bon, les Chinois à grande vitesse, les Européens aussi, les Américains, ça y est, s'y mettent. Il faut qu'ils trouvent le moyen d'être toujours au-dessus du lot. Hugo.
Ouais, écoute, je pense que Tesla sera jamais un constructeur automobile comme les autres de toute façon. Tu demandes à n'importe qui, n'importe quel kidam dans la rue, à quelle voiture électrique penses-tu, tout le monde va te répondre la Tesla. Et oui, maintenant, tu as tout le marché qui s'aligne et qui rattrape. Tout le monde a sorti ses gammes électriques. Il y a une offensive forte des marques asiatiques et chinoises, mais pas que. Le fait est que c'est Elon Musk qui a fait la voiture électrique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors après, c'est le sport national de taper sur Musk. De toute façon, dès qu'il fait un truc, il faut casser du,
sucre sur la tête de Musk. Les chiffres d'affaires. Moins
oui, mais t'imagines
la partie Tesla.
T'as raison, c'est des pertes hyper importantes. T'as dit 1,3 milliard de pertes sur un trimestre. Donc évidemment, c'est monumental, mais il faut aussi voir la performance qu'il a apportée.
Non, c'est son bénéfice net qui chute.
C'est son bénéfice net qui a chuté.
Son bénéfice net n'est que de 1,3 milliard. Il a chuté de 55%.
Mais faut remettre en regard la performance qu'il a apportée depuis 10 ans et qui a fait de Musk la première fortune mondiale. Donc c'est quand même, je pense, à contraster avec l'historique de Tesla.
Tesla fait moins rêver, Alexandre?
Non, enfin, je pense que effectivement, c'est un ovni, hein, Musk et Tesla. Il a une grosse pression. L'action a perdu 42% cette année. Mm-hmm. C'est pas la première fois qu'on dit Tesla va très mal, etc. Je me souviens quand ils sont sortis le Model 3, la production n'arrive pas à décoller. Tout le monde disait Tesla est mort, Musk est mort. Et en fait, ça a très bien marché. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ça. Moi, je pense qu'il faut. C'est très dur de prédire ce que va faire Musk. Tous les gens qui ont essayé ont échoué. Et voilà, il faut voir. Après le coup, après, de parler d'IA, quand on est en difficulté, d'annoncer des nouveaux produits par l'IA.
La robotaxi, il a même cité un moment son robot Optimus. Il a dit il sera prêt en 2025. Donc voilà.
Ça, c'est un coup classique que tous les groupes font. Je suis en difficulté et je vous parle des futurs produits et d'IA pour saupoudrer un peu les choses. Voilà, il a une grosse pression aussi pour embaucher un CEO pour Tesla.
Oui.
Parce qu'il passe beaucoup de temps sur X, sur de nouveaux projets d'IA, sur SpaceX, etc.
Ouais, sur Neuralink.
Sur Neuralink, etc. Et alors, c'est une surenchère. Il a un peu, il dit si vous me laissez pas 25% les droits de vote de Tesla, je passerai encore plus de temps sur l'IA et moins sur Tesla. Donc c'est un peu fou, mais c'est voilà, c'est un feuilleton.
Je regardais le cours de l'action, c'est quand même moins 41% depuis le début de l'année. Hein, donc voilà, quand on est actionnaire Tesla, on regarde ça un peu d'un peu plus près.
En attendant, il y a des Tesla à tous les coins de rue en Occident, tu vois. Il a quand même pris tout le marché, il a forcé le marché historique à se repositionner sur la voiture électrique. Donc quand tu regardes la performance sur 10 ans, les 10 ans de Tesla,
mais il baisse quand même les prix. Moi je pense qu'il y a quand même un problème d'image. Est-ce que Tesla peut un peu faire moins rêver? Est-ce que casser les prix, ça fait un peu douter aussi peut-être les experts du marché, enfin voilà, qui s'interrogent sur voilà, quand on baisse de 2 000, 3 000 $?
Écoute, moi je suis d'accord avec Alexandre, je prendrai pas cette position parce que tous les 6 mois tu peux enterrer Musk et 3 semaines après c'est le Phoenix, il revient. Donc je joue pas contre Elon Musk, moi.
et cette histoire de robotaxi?
Ouais, ça je sais pas, il y a un marché pour ça, il y a de la législation, j'en sais rien.
Alexandre.
Si, il y a un marché. Waymo opère dans 3 villes aux US, San Francisco, Austin, ailleurs. Il y a un marché.
Parce que lui, il dit carrément, c'est ce que disait Justine Vassogne dans le reportage, c'est que ce qu'il espère, c'est qu'un jour, ben, voilà, si on est propriétaire d'une Tesla, quand elle ne sert pas, eh bien, on la laisse devant son trottoir, en fait, et puis hop, elle va devant son domicile, puis hop, elle va aller...
C'est ça qui est intéressant. Après, est-ce que ça se fera ou pas, mais ce n'est pas juste l'idée de la voiture autonome, c'est le service, en fait. Oui. C'est le fait de sortir à travers un nouveau modèle économique qui est, OK, quand tu n'utilises pas ta voiture, qu'est-ce que tu en fais? Et donc, ben, comment, via une plateforme, c'est la même mécanique qu'un Uber, en fait. Sauf que tu n'as pas de chauffeur. Et c'est ça qui, je trouve, est plus intéressant que la voiture autonome en soi, regardée et dans les annonces qu'il peut faire.
Ouais, parce que c'était l'histoire du robot taxi, ça a toujours été, et même ce service de la voiture vue comme un usage, ça a toujours été son modèle dès le départ. Hein. Enfin, il n'a jamais.
Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est l'après demain. Tu vois, c'est pas dans les 24 prochains mois.
Déjà dans son ADN, savoir que la nuit ou quand tu n'utilises pas, t'es en vacances, ta voiture elle est en train de tourner.
Et t'as un mec que tu connais pas qui est dedans, c'est quand même faut y aller. Hein. À l'inverse, peut-être qu'Uber le fera. Je sais pas. Je pense que ça c'est très prospectif. Là, le sujet c'est de sortir les nouveaux modèles et de continuer à les vendre partout sur la planète. Et puis il y a quand même eu beaucoup de sujets sur les frais de réparation chez Tesla. Et là j'ai vu qu'il avait tweeté que c'était pas si cher, mais en fait je crois que le vrai problème c'est que quand on a une et qu'elle tombe en rade, c'est très compliqué, quoi. Donc je pense qu'il y a des sujets plus opérationnels, plus concrets de constructeurs automobiles classiques avant de se lancer sur le chauffeur automobile.
Et puis est-ce qu'il lui manque pas, alors là il l'annonce, il dit on va avoir on a un projet de citadine abordable, parce que là c'est un peu ce qui manque un peu dans cette gamme là, hein. Quand on voit Volkswagen, ils ont la Golf, Peugeot a la 208, la 2008, enfin des modèles. Renault va avoir ça en véhicule électrique, sa R5, quand même si les prix sont un petit peu plus élevés. Mais c'est ce qui manque un petit peu, je sais pas, non, dans ces gammes-là, Alexandre.
Oui, c'est vrai, quand on voit les grandes villes, etc., il manque cette petite citadine. J'étais au Japon récemment, et en fait, toutes les voitures sont toutes petites.
Oui.
Et ça choque quand on arrive surtout des US où toutes les voitures sont démesurées.
Très grosse, c'est les gros SUV. Ouais.
Intéressant, ouais, de voir pourquoi ils ne sortent pas ça.
Perle sur ce marché-là.
Bah effectivement, enfin pareil, je pense que ils s'alignent aussi au même niveau que les autres constructeurs automobiles en termes de produits, où il faut qu'ils puissent s'adresser plus globalement la totalité du marché ou presque en tout cas. Et une petite citadine, c'est aussi voilà moins cher, une accessibilité plus évidente.
Ouais, et puis oui, il pourra peut-être avoir de la marge s'il se sert sur cette partie logicielle. Bon, voilà pour Tesla.
Et puis t'as quand même toute la data qu'elle a captée, la Tesla. Ouais. Parce que le business model derrière, c'est que je crois que c'est la voiture qui a le plus de caméras au monde, la Tesla. Oui. Donc elle a juste scanné toutes les villes où elle opère et derrière, il a acquis une data juste phénoménale. Donc c'est quand même un dataset de valeur qu'il a constitué.
Mais de toute façon, c'est ça qui est étonnant. Enfin, si tu dis, il renaît un peu comme le phénix, hein, il renaît de ses cendres, c'est que on a quand même des résultats. Enfin, on annonce qu'une boîte, son bénéfice net chute de 55%, le chiffre d'affaires en recul de 10% sur un marché qui devrait pourtant être en croissance. Bon, même si le véhicule électrique ça tasse un petit peu. Et puis non, le cours de bourse, là, il part en flèche. Alors, c'est moins 41% depuis le début de l'année, mais quand même, il flambe un peu. Autre sujet, tiens, on va parler de TikTok. On parlera de Meta après la pause du journal de l'Écho. TikTok, alors ça y est, il y a le Sénat américain, donc le Congrès qui vient de valider la menace, hein, vous savez, de fermer TikTok. Alors le réseau social va devoir couper les ponts avec Pékin, faute de quoi il sera interdit aux États-Unis. Le texte sera promulgué dans la nuit par le président Biden. On écoute ce que l'on dit Antoine Heller, c'est notre correspondant à Washington.
Ce texte, en fait, est un ultimatum. TikTok a 12 mois maximum pour couper les ponts avec sa maison mère, Biden, c'est plus généralement avec la Chine. En clair, TikTok va devoir vendre ses activités aux États-Unis, faute de quoi la plateforme sera interdite, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus disponible sur les magasins d'applications, le Play Store ou l'Apple Store. On ne pourra donc plus la télécharger aux États-Unis. Alors, on n'en est pas encore là. TikTok va contester le texte devant les tribunaux, c'est une certitude. Son argument, c'est de dire que cette loi bafoue la liberté d'expression. Un droit fondamental aux États-Unis, c'est le premier amendement de la Constitution. Il pourrait donc y avoir une longue bataille judiciaire. L'autre option de TikTok, c'est d'attendre les élections en novembre pour voir si le vent tourne. On sait par exemple que Donald Trump se dit opposé à l'interdiction de la plateforme. Et puis il y a toujours la carte de l'opinion publique. TikTok, c'est 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, potentiellement 170 millions de mécontents si le réseau social disparaît. Reste que cet argument n'a pas fait trembler les élus américains. Le texte tout à l'heure a été largement voté au Sénat, à la fois par les démocrates et les républicains.
Et puis il y a la carte un peu business aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises. Alors, les grands, ça les inquiète moyennement parce qu'ils sont présents un peu partout, mais on imagine plein de petites entreprises, d'influenceurs qui sont sur TikTok, qui font un gros chiffre d'affaires sur TikTok et qui, si ça ferme, ça leur coupe un peu. Et puis alors, faut quand même attendre un an avant que ça ferme, hein, Hugo.
Un an, six mois, et puis de toute façon, c'est un serpent de mer parce que sous l'administration Trump, alors maintenant
maintenant, il y a plusieurs choses.
Maintenant, il a changé d'avis.
Trump qui nous dit finalement, alors qu'il voulait le revendre, et puis.
Et à l'époque, il voulait couper en deux.
Et les Chinois qui se plaignent de la liberté d'expression, mais voilà.
À l'époque, il voulait le couper en deux. C'est quand même un peu curieux. Enfin, après, c'est quoi ta question? C'est est-ce qu'on est pour ou contre l'interdiction? Parce que moi, je suis pour à 100%. C'est quand même l'app qui rend toute la jeune génération débile, hein. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, TikTok. Tu te balades dans la rue, t'as des mecs en train de se filmer, en train de faire des langues de chat, en train de... J'ai cité un autre exemple un peu triste en France, mais t'as des trucs catastrophiques qui se passent sur
TikTok. Et là, tu ne parles que des choses voilà, un peu bêtes, mais il y a tout ce qui peut être influence aussi. Hein. On va diffuser des vidéos.
Et tout à fait, et puis même, c'est un outil de propagande chinoise dans de nombreux cas. Donc, moi, je ne considère pas que ce soit un réseau neutre. Je pense que c'est un réseau éditorial, donc à un angle. Et je suis, pour une fois, plutôt contre qu'on l'interdise.
Et est-ce qu'on est, Alexandre Perle, est-ce qu'on est dans un. Parce qu'il y a le combat TikTok, puis il y a le combat sino-américain quand même. Hein. Les deux s'emboîtent un peu, Alexandre.
Déjà, je dirais, oui, Trump, en 2020, a essayé de le fermer. TikTok a gagné en justice. Et là, rien ne dit que TikTok ne va pas...
Il était allé voir Microsoft, Oracle, en disant, ce serait bien que vous le rachetiez. Enfin,
oui, mais en parallèle, ils ont contesté l'executive order et ils ont gagné. Et là, ils vont opter pour la même défense. Et donc, ça va durer longtemps et c'est pas fait, quoi. C'était OK, c'est voté par le Sénat, mais c'est loin d'être fait. Donc, je pense, première chose, c'est pas encore gagné. En plus, après, qui va vouloir acheter TikTok s'ils doivent le faire? Je pense que c'est pas évident qu'il y ait un acheteur. Il faut pas oublier, ils perdent beaucoup d'argent, d'accord, oui. TikTok. Il y a un business model qui est pas évident parce que faire de la pub dans des vidéos short, il y a pas de modèle qui marche encore aujourd'hui, contrairement au modèle de vidéos plus longues sur YouTube, par exemple. Et si c'était racheté, on voit ce qui s'est passé, par exemple avec MySpace qui a été racheté par News Corp. À l'époque, ça a détruit MySpace en quelques mois. C'est compliqué, quoi. Ça,
oui, puis eux, je sais pas comment sont faites les infrastructures techniques. Ça a été un peu complexe, hein, aussi. On coupe pas du jour au lendemain.
Ça a déjà été
interdit. Ça a été interdit en Inde, ça a été interdit au Pakistan. Enfin, TikTok a déjà été interdit en Inde, au Pakistan aussi. Il y a quelques pays où il a été banni. Mais Perle, toi, ton regard.
C'est surtout, je pense quand même avant tout, un enjeu politique, pour rebondir sur ta remarque. Effectivement, entre les États-Unis et la Chine qui se battent à plusieurs niveaux, et TikTok est un peu l'emblème technologique, média de ce combat. Après, tu disais, Hugo, que c'est effectivement un outil de propagande chinois. Bon, on peut dire aussi la même chose des plateformes américaines. Oui. Enfin, je veux dire, c'est de bonne guerre, tout ça. Enfin, ça vaut pour l'un comme pour l'autre. Alors certes, à certains niveaux, mais globalement, ça reste quand même assez similaire. Après, sur le sujet de est-ce que ça va vraiment arriver ou pas, on observe quand même qu'il y a un enjeu pour les plateformes chinoises qui veulent s'exporter et se développer de s'écarter le plus possible du gouvernement chinois, du parti politique, parce que en fait l'expansion à un moment est bloquée par des enjeux politiques.
TikTok, c'est le premier qui avait réussi ça, puisque bon, Alibaba sur la partie e-commerce, mais bon, ça n'a pas concurrencé des Amazon, les réseaux Baidu, les réseaux WeChat qui est quand même toujours largement utilisé en Chine.
Ça c'est des réseaux qui sont beaucoup pour le territoire chinois, voilà. Finalement.
Ils n'ont jamais réussi à exporter le modèle et tout ça, et que TikTok qui a réussi à fonctionner sur l'autre côté. Est-ce que quelque part, alors je reviens sur cette question-là, on se trompe pas un peu de bataille pour les Américains, parce que on sent quand même que derrière il y a des enjeux géopolitiques, parce qu'à peine l'administration américaine, là, il y a deux jours, a dit on est en train d'étudier le cas. Bon, là, ça y est, ils vont voter la fermeture. De l'autre côté, les Chinois disent tiens, WhatsApp et Thread, vous l'enlevez. Ils ont demandé à Apple de l'enlever carrément de l'App Store. Bon, d'histoire de censure, etc. Et Apple s'est tout de suite exécuté. Donc là, il y a aussi cet enjeu-là, non là...
Et WhatsApp et Thread étaient bloqués depuis longtemps, non?
Je crois.
En Chine, je pense que c'était...
Ouais, ils continuent à être accessibles via l'App Store, VPN, App Store, tout ça. Et là, ils ont demandé à Apple de...
Mais dans la pratique, en tout cas, c'est tous ces réseaux. LinkedIn est bloqué, Facebook est bloqué, Instagram est bloqué en Chine depuis longtemps. Donc, en fait, c'est... et d'ailleurs, beaucoup... Tu disais les produits chinois s'exportent mal, mais en fait, beaucoup des produits chinois sont en fait des clones de choses qu'ils ont bloquées. Donc ça va pas se réexporter. Donc il y a un clone pour YouTube, il y a un clone pour Facebook. On pourrait dire juste WeChat qui a évolué sur des choses très particulières au marché chinois. Mais
après j'attends de voir aussi. Alors dans le reportage, Antoine Nelard parlait de la réaction du public américain. Est-ce que le public... Je regardais, il y avait des chiffres. C'est une étude IFOP, hein, c'est chez nous. Les jeunes sur TikTok, 35%. Alors ils ont regardé les tendances un peu. 35% des jeunes sur TikTok pensent que les vaccins sont mauvais. 36% pensent que les élections peuvent être truquées. Enfin voilà, on voit quand même que...
Non, mais quand tu penses qu'aujourd'hui TikTok c'est quand même la principale source d'information. Je ne sais plus quel tranche d'âge, mais...
Plus fort que des moteurs de recherche.
Ouais, voilà. Donc c'est évident que, en fait, nous, on est old school, quoi. On va sur Google quand on cherche une info. Maintenant, peut-être ChatGPT, mais... en fait, non, effectivement, il y a toute une génération qui va sur TikTok pour chercher n'importe quelle information et pour suivre l'actualité. Donc oui, c'est sûr que ça a un impact. Et puis il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de TikTok qui, globalement, dans son modèle économique et dans sa diversification, devient quasiment un site e-commerce. Enfin, je veux dire, ça va bien au-delà juste de diffuser des vidéos. Donc oui, il y a clairement tout un écosystème qui s'est développé.
Ce que font pas les autres apps, hein, moi, je trouve. Hein. Ce que tu disais, côté américain, côté chinois, c'est quand même vachement agressif. Et concernant TikTok, tu as un double effet malicieux, un double effet qui se coule. C'est un, t'as quand même, moi je trouve, des contenus qui sont abrutissants, c'est-à-dire que ce qui est diffusé dessus, c'est pas YouTube, donc tu peux pas trouver un contenu long, travaillé, intelligent qui va t'apprendre quelque chose ou sur Meta. C'est vraiment un tout venant de conneries. Et tu as toute la data qui est aspirée, parce que on parle du Sénat américain, mais il y a quelques mois, t'as le Sénat français qui s'est alarmé.
Ah oui.
Alors dans le plus grand
qui a interdit d'ailleurs assez,
dans le plus grand des silences, hein, c'est pas le même porté que le Sénat américain, et un peu en retard, mais t'as quand même cet enjeu de où va la data, où est stockée la data, qu'est-ce qui se passe de tes données, de tes données personnelles quand tu utilises TikTok. Donc t'as ces deux pendant. Un, c'est abrutissant, et puis deux, ça envoie de la data, on sait pas où, des données personnelles, on sait pas où. Donc moi je comprends la position défensive des Américains.
Surtout que l'on dit que le TikTok chinois là, il s'appelle Douyu, non, en Chine. Enfin là, il parle pas le nom de TikTok en Chine, mais c'est pas les mêmes types de contenus.
Et c'est ce que j'allais dire.
C'est des contenus plus éducatifs.
Mangent pas la même cuisine que nous. C'est-à-dire qu'ils nous servent ce truc infâme.
Douyin, voilà.
Et eux, ils ont une app qui ressemble en fait plus. C'est plus les reels, tu vois, c'est plus un snap, quoi. Dans, c'est pas forcément non plus glorieux, mais c'est pas en tout cas cette espèce de tout venant de contenu abrutissant.
Après, est-ce que ça renforce pas TikTok? Enfin, est-ce que quelque part le fait d'être un peu banni des États-Unis vont pas aller se renforcer ailleurs? On sait qu'en Europe, je crois qu'ils ont un taux de pénétration qui est encore assez faible par rapport à d'autres, aux États-Unis en tout cas, mais par rapport même à d'autres continents. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de.
Ouais, après, s'ils se font faire.
Il y a l'Afrique.
C'est-à-dire que l'Inde aussi, c'est quand même des grands des marchés stratégiques pour les apps sociales. Donc c'est forcément compliqué, c'est des gros marchés. Et après, tu parlais de l'action des jeunes.
Ouais.
Moi, j'ai vu des TikTok qui buzzaient sur Twitter de jeunes américains qui étaient en pleurs, qui avaient l'impression qu'après ça, on allait leur enlever leur manche-pain, qu'ils avaient plus hors de vie, plus de sens, etc. Ça a quand même baissé le niveau intellectuel de toute une génération pour moi.
Ouais. Je sais pas sur les.
Ouais, et à côté de ça, je lisais un article l'autre jour sur je sais plus, j'arrive pas à retrouver le nom du hashtag là de book. C'est quoi, c'est BookTok? Où en fait, non mais je te jure, t'as une tendance de fond sur les livres. En fait, avec des influenceurs qui recommandent des livres, et ils ont vu l'impact direct sur la vente de livres.
Ouais.
Donc tu peux trouver des contenus de merde, effectivement, mais t'as aussi, tu peux aussi trouver des contenus, en tout cas, qui sont pertinents ou qui correspondent à des centres d'intérêt qui sont pertinents. Tu
de la merde. Ouais, ok. Je comprends. Non, mais défends-les.
Je suis pas particulièrement une défenseuse, et je suis pas d'ailleurs une utilisatrice de TikTok en particulier.
Tu peux nous dire.
Mais non, je serais bien embêtée. On peut pas non plus rentrer que dans cette caricature-là de dire.
Oui, mais la réalité, c'est quand tu regardes quand même sur cette plateforme-là, autant Instagram, t'as des contenus esthétiques, YouTube, t'as des contenus intéressants, du doc, ce genre de contenu-là, de l'unscripté un peu intelligent. Là, c'est vraiment du gimmick, du jeu, de la vidéo. C'est ce que disait Alex, hyper courte. Et oui, BookTok peut-être, mais arrêtez, c'est que moi, je vois plutôt des jeunes filles en train de faire des danses sensuelles dans tous les sens, des jeunes hommes en train de faire des très très grosses bêtises parfois pour faire des vues, et je vois pas beaucoup de BookTok. Mais évidemment, dedans, t'as forcément du contenu.
Tu ne dois pas rentrer dans le bon algorithme.
Je suis peut-être plus dans le bon cible. Là. Je suis peut-être passé de l'autre côté.
Je sais pas, Alexandre, toi, est-ce que tu réfléchis, pour Nabla, se dire tiens, pourquoi pas TikTok pour essayer de promouvoir un peu.
Ouais, sur les contenus médecine, prévention.
Pourquoi tu fais pas ça?
Non, mais il y a des mécanismes. L'algo est dirigé avec effectivement une intention mauvaise.
Oui. Mais d'accord.
Mais par exemple, il y a une startup française qui s'appelle Revise. Qui fait un logiciel, une app de révision, donc d'éducation pour collège, lycée, collégien, lycéen, et qui s'est basé sur ce qui marche dans TikTok. Donc ça ressemble. Ils ont justement remarqué au début que parmi le flow de bêtises dans TikTok, il y avait quelques contenus intéressants et que ça marchait aussi. C'était plus facile à consommer.
Non, après, les mécaniques de TikTok, donc les mécaniques pour faire de l'audience, pour faire du reach, pour faire de l'engagement, elles sont hyper intéressantes. D'ailleurs, si on est honnête tous les deux, t'as beaucoup d'inspiration dans les reels sur Instagram chez Meta. On va dire inspiration pour rester poli. Donc, c'est sûr en termes de code. Et si tu utilises pour diffuser du contenu qui t'élève et qui t'apprend quelque chose, moi je suis pour. J'interdis les réseaux sociaux, jamais. Je dis plutôt l'inverse, moi, sur ce plateau, à chaque fois que je suis présent. Mais je trouve que celui-là, quand tu regardes le contenu, moi je l'ai ouvert 2-3 fois, c'est catastrophique. Il y a vraiment très peu de choses à en garder. Et c'est limite pornographique dans certains cas.
Et tu parlais du côté abrutissant, puis il y a le côté addictif. Hein.
Et en plus, c'est addictif à mort.
Je disais, je voyais un dessin humoristique l'autre jour. Non, une vidéo, pas sur TikTok, sur un autre réseau. La personne qui dit, je suis allé sur mon appli pour voir la météo. Ça fait 4 heures que j'y suis, je ne fais toujours pas la météo. Par contre, j'ai vu plein de petits chiens, des pandas et tout ce genre de choses. Tiens, juste un mot avant qu'on la pause. J'allais dire qu'on allait parler chacun de son actu. L'actu, Nabla, on en est où, Alexandre, là, en ce moment?
Nous, on a franchi donc, les 30 000 médecins qui utilisent notre assistant, l'IA. Donc pour
donc c'est le copilote, hein,
copilote pour donc c'est un assistant médical, ouais. IA qui travaille auprès des médecins, qui les remplace pas, qui documente les consultations et s'occupe de tout l'administratif, de tout la paperasse, de faire les contrôles.
Et eux-mêmes dans leur recherche documentaire, c'est-à-dire quand s'ils rendent les symptômes, ils peuvent avoir, ça vient confirmer un peu ce qu'ils ont.
Pas d'accord, parce que c'est pas une demande que la plupart des médecins ont, en fait. Ils sont à l'aise avec ça.
Ouais.
Par contre, ce qui les embête, c'est l'administratif.
Voilà, c'est envoyer un courrier à un confrère pour lui dire.
Voilà. Pendant une consultation, où, en général, votre médecin ne vous regarde pas, il ou elle.
Oui, oui, toujours, il est devant son écran.
Voilà. Et ça, personne n'a décidé de faire 10 ans d'études de médecine
pour être derrière.
Pour à la fin faire un travail de secrétariat. Donc en fait, on a fait une IA qui fait ce qu'ils n'aiment pas faire, c'est-à-dire ça, et qui leur fait gagner 3-4 minutes par consultation. En France, beaucoup plus aux États-Unis, où le devoir de documentation est bien, bien plus grand. Et les patients sont contents aussi parce qu'on les regarde, on les écoute et on s'occupe d'eux.
Et puis le travail est fait par derrière, en plus.
Et le travail mieux fait après.
Eh bien, merci tous les trois. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le journal de l'écho avec Marjorie Adelson. Et puis, on se retrouve juste après. Tiens, on va beaucoup parler de Meta parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de Meta, notamment ces nouvelles intelligences artificielles, Llama 3, qui viennent de sortir, alors qui est plein de promesses. Hein. On dit tout le monde vante les mérites de Meta. En plus, c'est de l'open source. Donc, et on va vous expliquer pourquoi c'est important, l'open source. Allez, restez avec nous. On se retrouve juste après le journal de l'écho. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'écho sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec nos débriefeurs, Perle Bagot, directrice générale de Hub Institute, Alexandre Lebrun, cofondateur et président de Nabla et ancien chercheur IA chez Meta, et Hugo Brenstein, cofondateur, président d'Omi et ancien de Meta aussi également. Enfin, ça s'appelait Facebook à l'époque.
Ça s'appelait
Facebook, mais la maison mère, Meta. Alors justement, on va parler de Meta, ça tombe bien. Alors, faut savoir que les résultats tombent ce soir après bourse, donc on vous en parlera demain. Mais en tout cas, là, il y a une annonce qui fait pas mal de bruit, c'est Llama 3. Alors Llama 3, c'est l'IA générative. Alors Llama, c'est l'IA générative de Meta, et c'est la version 3 qui sort en open source. Alors ça se présentera dans les différents les WhatsApp, les Facebook, etc. sous la forme d'un chatbot. Et les retours sont plutôt bons, hein, Hugo.
Ah non, il faut que Alexandre.
Je commence par Alexandre.
La star de l'IA mondiale de chez Meta, qui est là.
Vas-y, Alexandre.
Non, les retours sont absolument excellents, incroyables. Très très vite, hein. Autant d'autres boîtes avaient fait des annonces avant sur des nouveaux LLM, qui disaient les benchmarks sont très bons, etc. Mais les développeurs disaient moi j'ai testé sur mon problème à moi.
Oui, c'était l'Anthropique avec Claude.
L'Anthropique il y a quelques semaines. Et là c'est le contraire. Facebook, Meta a sorti Llama 3 un peu low profile, et puis en fait tout le monde dit c'est extraordinaire.
En open source après, hein,
on va dire pour... c'est ça qui est l'immense avantage.
Pourquoi c'est important, voilà, pour ceux qui nous suivent. Alors évidemment, quand on parle IA générative, on pense à OpenAI parce que ça a été le premier vraiment qui a démocratisé tout ça. On parlait mais OpenAI n'avait au début, s'il était open source, après n'avait plus rien d'open. On entend aussi Mistral, alors avec des modèles un peu moins larges, mais qui étaient open source, qui le sont un peu moins. Pourquoi c'est important ce côté open source aujourd'hui, Alexandre?
C'est très important à plusieurs égards. Si aujourd'hui vous utilisez donc le meilleur quand même LLM prouvé pour l'instant, c'est GPT-4, fourni par OpenAI, et c'est fermé, c'est une API, donc c'est eux qui l'hébergent, et je peux juste être client de ça, je peux pas modifier une ligne, je sais pas comment ça marche, c'est une boîte noire. Alors c'est lent, c'est cher et c'est immodifiable, donc je peux pas l'adapter un peu à mon problème, ce qu'on appelle fine-tuner.
Ou alors faut que je passe par, faut que je signe un contrat avec OpenAI, que je mette mon cahier des charges.
Si j'ai pas au moins un chèque de 1 ou 2 millions de dollars, OpenAI ne va pas décrocher le téléphone de toute façon. Donc c'est c'est pour un développeur normal, une startup par exemple, c'est pas vraiment envisageable. Donc à l'inverse d'un LLM open source fourni par donc Llama ou par Mistral par exemple, là vous pouvez télécharger le modèle. Les paramètres, les poids, ce qu'on appelle les poids. Et ensuite, vous pouvez, plus ou moins, selon les cas, ouvrir le capot et le fine-tuner, donc le modifier pour l'adapter à votre problème. Vous avez des data et vous pouvez réentraîner les couches supérieures, disons, du réseau pour qu'il fasse, qu'il travaille mieux pour votre problème. Et quand vous faites ça, vous retrouvez quelque chose que vous pouvez héberger chez vous, donc en toute autonomie. On n'a pas quelqu'un qui nous offre un service tiers. Ça coûte moins cher, ça tourne en général plus rapidement. Et ça peut s'adapter à mon problème. Et je dépends de personne. Donc, il n'y a que des avantages, en fait, vus par le client.
Les avantages vus par le client. Alors, je me mets côté méta, parce qu'on met quand même du code à disposition. Alors, c'est quoi? C'est l'esprit open source ou, comme ceux qui vont développer avec vont le mettre aussi en open source. Donc, finalement, ça va grossir la base et ça va attirer. Mais, quel est l'intérêt de méta dans tout ça?
L'intérêt, je pense qu'il n'est pas court terme. La réponse, c'est Yann Lequin.
Oui.
Donc, le patron de l'IA
qui on le rappelle est très intéressé, il est évidemment à fond pour Meta, mais il a gardé un poste d'enseignant, enfin le côté recherche est très important pour lui, hein. Il n'est pas là uniquement pour faire tourner, enfin il est là pour que ça rapporte de l'argent, mais c'est pas son but ultime.
Yann, il a toujours dit, donc c'était mon boss à Facebook, il a toujours dit l'IA, la recherche doit être ouverte, partagée, la meilleure manière d'éviter justement par exemple des dérives d'utilisation nocive, etc., c'est que ce soit partagé et ouvert, c'est pas de le fermer et de l'interdire. Et c'est très important pour lui que ce que fait Meta en recherche en IA soit toujours ouvert et partagé. Donc il y a un principe de base pour Meta et avec la garantie de Yann derrière, il continue à l'exécuter. Après, ça a des avantages parce que effectivement, les développeurs vont très très vite, en quelques jours, en quelques heures même, ça arrive, ils vont trouver des améliorations, avoir des idées nouvelles et ça va participer à l'amélioration.
Oui, puis il y a le côté, comme tu dis, il y a le côté rapidité de développement. Quoi. J'ai une idée, je récupère le, j'ai pas à aller signer un contrat avec un OpenAI, avec un Gemini, etc. Je peux démarrer tout de suite avec ce code-là. On dit même, enfin, ce que je disais, c'était il y avait une certaine capacité de raisonnement, elle est en plus plus performante, en plus, ce Llama 3.
Alors, raisonnement, moi, capacité de raisonnement, si Yann était là, il tomberait sa chaise, il dirait non, un LLM ne raisonne pas, en fait, c'est un perroquet, un autocomplete super puissant. Mais c'est qui fait semblant de raisonner, mais qui ne raisonne pas au fond, ça c'est vraiment... Donc je pense que quand on dit Llama 3 est très puissant, mais je ne pense pas qu'il soit différent des autres LLM, c'est-à-dire qu'il peut prétendre raisonner, mais il n'y a pas de raisonnement vraiment formel ou logique.
Ça reste quand même des statistiques, des mots.
L'architecture est la même, c'est plus gros, c'est sans doute mieux entraîné, et il y a peut-être quelques secrets au milieu, mais il n'y a pas d'architecture complètement nouvelle.
Et je profite de t'avoir avec nous aussi, parce que hier, Microsoft a annoncé, lui, toute une série de SLM, et juste nous dire la différence entre les Small Language Models face aux LLM, les Large Language Models.
Donc, LLM, là, c'est un peu.
Il y en a d'autres, c'est juste que Microsoft en a annoncé hier de son côté, mais bon, il y en a, Mistral en a aussi, mais voilà. C'est quoi ces différences? C'est qu'on va travailler sur moins de données?
Alors, large language model, voilà, on a un très très gros modèle qui est entraîné avec beaucoup beaucoup de données, qui a beaucoup de paramètres, qui est très difficile à entraîner, ça coûte des millions de dollars juste pour faire une session d'entraînement.
Il faut rappeler, il y a l'entraînement, puis après il y a l'inférence. Voilà,
et après il y a l'inférence, les deux sont plus coûteux. Si c'est plus gros, l'entraînement est beaucoup plus coûteux, l'inférence est plus coûteuse, elle est plus lente, etc. Mais c'est très généraliste. Donc c'est pour ça que ChatGPT est aussi impressionnant, c'est que vous pouvez lui parler de presque n'importe quoi, il fera semblant d'avoir une réponse. Avec beaucoup de confiance en lui d'ailleurs. Un SLM, donc un Small Language Model, on cherche au contraire à avoir très peu de paramètres dans le modèle, donc c'est plus facile à entraîner. C'est beaucoup moins généraliste, c'est moins impressionnant. Mais par contre, c'est facile à entraîner pour une tâche, si vous avez une tâche très précise.
Soit une tâche, soit un domaine d'activité. Dans la médecine, par exemple, on peut avoir...
Alors, même dans la médecine, c'est beaucoup trop large. Il faudrait
C'est vraiment encore plus...
Par exemple, si quand je donne un nom de médicament utilisé par le grand public, Doliprane, à quel code ça correspond, en fait, dans les taxonomies qu'on appelle CIM-10 en France, ou CIM-11, à quel code ça correspond? Voilà, ça, c'est un exemple de tâche très étroite, où il faut faire quelque chose de très précis. Pour ça, on peut prendre un petit modèle, et si on a assez de data pour l'entraîner, on va pouvoir, soi-même, chez soi, même si on n'est pas méta et qu'on n'a pas 1000 serveurs avec des GPU, l'entraîner très vite pour cette petite tâche, et ça va être efficace. Donc, c'est une stratégie différente, où au lieu d'avoir un gros réseau qui fait tout, on va entraîner plein de petits réseaux qui chacun font une chose très précise.
D'accord,
Microsoft sort ça. Ils n'ont pas sorti, à ma connaissance, de LLM pour l'instant.
Non, bah, ils sont passés par OpenAI. Voilà. Ouais.
Donc c'est pas bête de leur part de se mettre sur un terrain légèrement différent. Mm-hmm. Et à mon avis, le jour où ils auront un LLM qui sera meilleur que OpenAI, ils le sortiront. Mais en attendant,
ouais. Bon, ils ont quand même, ils ont mis beaucoup d'argent dans OpenAI, on va dire, voilà.
Donc ils se positionnent sur ce créneau avec ces petits language models qui sont destinés à des tâches précises.
Et dernière question, puis avant de faire réagir Perle et Hugo sur Llama 3, en termes de consommation, parce que je parlerai d'empreinte carbone tout à l'heure avec Gilles Babinet sur son livre, en termes d'empreinte carbone, le fait d'être open source et tout ça, on est parce qu'on sait que ces IA, ça consomme aussi beaucoup en puissance calcul, donc là, est-ce qu'il y a une certaine vertu aussi d'être en open source?
Je dirais pas vraiment, enfin, une petite vertu, c'est que grâce à l'open source, vous allez pouvoir prendre un modèle plus petit et le spécialiser pour votre problème,
oui.
Et donc plus le modèle est petit, moins il va consommer, à la fois en entraînement et en inférence. Donc l'open source, c'est pas directement, c'est pas parce que c'est open source que ça consomme moins, c'est parce que grâce à un modèle open source,
on va cibler beaucoup plus son projet.
Cibler beaucoup plus. Mais parce que la consommation d'un LLM, et quand vous posez une question à ChatGPT, vous brûlez un demi hectare en Amazonie. Donc
si on répond à la première question, d'après ce genre, il va recalculer encore.
Exactement. En fait, aujourd'hui, personne ne va chercher trop à optimiser ça. On commence juste à chercher à optimiser ça, mais la consommation d'un LLM est complètement délirante. Et beaucoup d'opérateurs qui se basent sur d'entreprises qui se basent sur GPT-4 par exemple, en fait perdent de l'argent parce que ça peut coûter plusieurs dollars pour chaque pour chaque question, en fait, pour chaque étape. Et ce qui à court terme peut être jouable, mais à long terme c'est pas viable. Voilà, donc c'est on va de toute façon se diriger vers sans doute des réseaux plus petits, plus étroits. Qui sont mieux entraînés pour une tâche précise, parce que et là des nouveaux business seront possibles quand le prix baissera, en fait.
Hugo, Llama 3, là, ça y est, on rentre vraiment dans le cœur de la bataille.
Écoute, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que tu considères que GPT-4 est toujours plus performant, si j'ai bien compris.
On attend un GPT-5 pour mai-juin.
Moi, ça m'inquiète un peu parce que on est quand même sur une équipe de chercheurs chez Meta qui est dessus depuis très longtemps, et donc ça veut dire que les moyens qui ont été investis par OpenAI sont considérables pour garder toujours un peu d'avance. Après, ce qu'on disait sur l'open source, c'est quand même la question fondamentale. Il faut rendre hommage à Meta qui décide d'être fidèle à sa stratégie d'open source, là où les autres sont en closed source. Si tu regardes OpenAI, le débat derrière, il y en a deux. C'est ce qu'a dit Alex sur est-ce que on va avoir des papiers de la recherche qui est disponible publiquement pour que d'autres entreprises puissent venir travailler avec, travailler sur ces codes-là et faire des applications, ce que nous on fait. Nous on fait pas de recherche, mais on utilise cette production qui est en open source chez OMI pour nos produits. Et puis l'autre enjeu, c'est est-ce qu'on veut une intelligence artificielle dont on parle matin, midi et soir, qui va changer le futur du travail, le futur de la santé, le futur de la sécurité, le futur de ce que tu veux, de la communication.
Notre quotidien même.
Notre quotidien. Est-ce que tu veux que ce soit privatisé par une poignée d'acteurs? Ça, c'est plutôt côté OpenAI, ou est-ce que tu veux que ce soit séparé entre plusieurs acteurs? Donc, est-ce qu'on veut un monopole de l'intelligence artificielle et de ses modèles?
Est-ce qu'on se retrouve dans la même bataille que les Windows Open Source?
Sauf que les enjeux sont plus importants en concernant l'IA, puisque tu viens de le dire, on parle de tous les aspects de notre vie, de nos économies et même de nos organisations politiques. Donc, c'est un débat qui est crucial. Et il faut quand même, moi, je trouve, tirer le chapeau à Meta. Alors, c'est pas parce que moi, je suis un ancien de Meta et Alex, t'es un ancien de Meta, mais c'est quand même les seuls qui, à cette échelle-là, te disent tout est mis en open source.
Quand on voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est quand même ce qui ressort, hein, c'est que bravo Meta.
Et effectivement, ça t'attire derrière quand même, tu retires tes lauriers de cette stratégie-là. Et puis, t'as un pan de la recherche, on en connaît beaucoup, qui préfère cette philosophie-là à la philosophie du closed source et du tout fermé.
D'ailleurs, je le rappelle que QTI, hein, l'initiative menée par Xavier Niel, Rodolphe Saadé, dans l'entreprise, enfin, qui est en négociation pour racheter justement les chaînes BFM, RMC et Eric Schmidt, hein, ancien président d'Alphabet, et qui ont chacun mis une centaine de millions. Enfin voilà, ils ont fait ce labo QTI.
Et c'est plus courageux.
Et c'est de l'open source.
Et c'est beaucoup plus courageux.
Ils insistent bien. On les a vus il y a quelques jours. On a vu c'est Patrick Perret, je crois, le DG de QTI, et il est.
Ils ont mis des centaines de millions dans une initiative pour pousser, pour promouvoir l'open source, ce qui est beaucoup plus courageux, parce que c'est simple de dire moi je suis un grand acteur, une grande plateforme plateforme, j'ai des moyens limités, je peux m'offrir toute la recherche et la privatiser et après monétiser seulement dans mes produits. C'est plus courageux de dire je monétise dans mes produits, mais en même temps je publie, je permets à d'autres de venir leverager et s'avère de cette
plateforme. Le modèle open source de Meta, c'est vraiment une volonté historique, parce que je me souviens qu'il y avait une histoire de fuite de, au tout début, non, c'était pas ça, c'était retrouvé sur justement des plateformes open source, alors que c'était là-bas, c'était pas une volonté.
Si, enfin, il y a deux choses. Il y a le code du LLM, ouais. Et puis il y a les poids, donc les paramètres qui ont été entraînés et qui ont coûté, je sais pas, 20 millions de dollars à entraîner. Et on pourrait, en fait, open source sur l'LLM, c'est toujours un, c'est pas très précis parce qu'on peut. On dit open
source. C'est ce que dit Mistral hein, quand Mistral on dit ah mais vous n'êtes plus open source. Si on l'est mais voilà.
Si je te donne mon code mais que j'ai pas les je te donne pas les poids qui m'ont coûté 20 millions de dollars à entraîner, en fait tu peux rien faire avec mon code parce que t'as pas la capacité de l'entraîner. Okay. Donc en fait c'est toujours un peu ambigu comme promesse. Et justement le premier lama, en fait Facebook t'avait pas publié les poids, mais ils ont fuité mystérieusement tout de suite, et donc c'est forcément quelqu'un à l'intérieur.
Il s'est dit, allez.
Je sais pas si, j'ai pas d'infos.
Un chevalier blanc.
Est-ce que en fait, ils voulaient pas, est-ce que le légal de Facebook ne voulait pas.
Ah oui, c'est ça. Et ça peut être de l'interne.
En peur des répercussions, etc. Mais qu'en fait, quelqu'un, par exemple Zuckerberg, s'est dit, faites-le, mais je veux pas savoir que ça a été fait officiellement, voilà, je sais pas.
Okay.
Mais effectivement, les poids avaient fuité. Maintenant, je crois que les dernières releases sont plus ouvertes et que directement ils communiquent les points.
Alors, on va rester sur chez Meta là, parce que dans la course à l'IA, Meta passe aussi la seconde là sur un autre domaine. Le groupe de Mark Zuckerberg, il a donc multiplié les annonces. On vient d'en parler à l'instant. Et la dernière, tiens, il y en a une, c'est intégrer aussi de l'IA dans les lunettes. Hein. Vous vous souvenez ces lunettes Ray-Ban, alors qui ont connu un succès un peu mitigé la première version. La version 2 déjà, ça commençait à être mieux. Et puis la version 3, ben on va écouter les explications d'Anthony Morel, pardon. C'était ce matin dans la matinale et puis on va vous faire réagir dessus.
Jusqu'ici, l'intérêt de ces lunettes qui ont été lancées il y a quelques mois, hein, il était relativement limité. Mais là, avec une mise à jour qui est arrivée hier aux États-Unis, en France, on attend encore, ça devient vraiment très intéressant. Le principe de ces lunettes, je le rappelle rapidement, c'est des lunettes de soleil avec deux petites caméras au niveau des montures qui vont permettre de filmer ou de photographier ce que je veux, tout ce qui est dans mon champ de vision, et de le publier sur les réseaux sociaux. Bon, très bien, ça existe depuis plusieurs années. Là, ce qui a été intégré, ce sont des fonctionnalités d'intelligence artificielle multimodale. C'est-à-dire que ces lunettes, elles vont pas seulement filmer, elles vont analyser tout ce qui se trouve dans mon environnement et me donner des informations contextuelles. Donc je ne sais pas si je suis dans un jardin public qui a une plante et je ne connais pas cette plante, eh bien je vais demander aux lunettes, vocalement hein, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette plante ? Hey Meta, qu'est-ce que c'est que cette plante ? Et l'intelligence artificielle va me répondre, va me susurrer à l'oreille puisqu'il y a des petits micros et des haut-parleurs qui sont dans les montures. Même chose s'il y a un monument.
On s'habitue à voir des gens parler tout seul à leurs lunettes.
Oui, ça c'est vrai, parler à ses lunettes, ça va devenir un truc normal dans la rue. Bon, va falloir s'y habituer, effectivement. Ça peut être plein d'autres choses. La traduction instantanée, si vous êtes, je sais pas moi, dans un pays étranger, que vous avez un menu au restaurant chinois, vous ne comprenez pas, vous avez la traduction instantanée, ça c'est quand même extraordinaire. Oui. Et puis on va même pouvoir s'en servir, je vous disais qu'on peut prendre des photos et filmer pour publier sur Instagram, eh bien l'IA va vous suggérer par exemple une légende pour la photo, vous n'avez même plus besoin de vous en occuper. Donc on voit bien que ça leur donne vraiment une nouvelle dimension à ces lunettes connectées.
Là on commence à avoir quelque chose de sérieux, hein, Alexandre.
Oui, c'est très intéressant parce que c'est la vision qu'avait eu Google il y a 10 ans, avec Google Glass, qui était assez géniale.
Plus trop leur en parler aujourd'hui, mais
ouais, voilà, mais trop tôt.
Tôt,
c'est-à-dire que là, j'avais des Google Glass il y a 10 ans à San Francisco. Bon, ça marchait pas du tout avec l'accent français. Juste pour allumer le truc, pour dire OK Google, ça comprenait pas.
Oui, puis même là, pour ceux qui nous écoutent en radio, voilà, là on a les vrais Ray-Ban ou Effareur classiques.
Voilà.
À l'époque, Google, c'était une espèce de lunettes de coureur. On avait une petite caméra qui.
Et on voyait que les gens regardaient dans le coin au lieu de regarder. Donc et puis la techno.
Voilà, c'était vraiment la version zéro du produit.
En fait, la techno, tout simplement, n'était pas encore prête. Et on voit que 10 ans plus tard, avec le recul et les progrès de l'IA et les progrès du hardware, de pouvoir mettre ça, moi, il faut les essayer, en fait. C'est vraiment.
Ah oui.
Vous pourriez essayer ces lunettes et ne pas savoir qu'en fait qu'elles sont augmentées, vous pourriez.
Oui, parce que, encore une fois, c'est pas comme un casque, elles pèsent pas 200 grammes. Hein.
Elles sont un peu plus lourdes que les Ray-Ban normales, j'imagine, mais franchement, il faut le savoir que c'est ça. Le son est très bien communiqué. Et donc c'est assez naturel. Donc je pense qu'il y a une convergence que le hardware est assez petit, assez léger. Au niveau de l'IA, on sait faire des choses utiles. J'ai déjà dit que je revenais du Japon, je le répète, désolé, mais en fait, c'est la première fois que j'utilise Google Lens, donc qui est l'équivalent pour une app où vous pouvez, à travers votre téléphone, voir n'importe quoi écrit en japonais. Ça traduit dans l'image en temps réel, c'est absolument incroyable. On peut être au fin fond de la campagne, sur un sentier, passer par une ferme et communiquer avec les gens et lire ce qu'il y a à lire, etc. Enfin, ça fonctionne enfin.
Oui, oui.
C'est des choses dont on rêve dans l'IA depuis 30 ans et qui, depuis quelques années ou quelques mois, fonctionnent vraiment. Et donc, pour moi, on y arrive, quoi, et c'est extraordinaire. Voilà.
Oui, c'est sûr qu'on franchit une étape puisque elles ont vraiment, voilà, elles ont cette intelligence. Je crois que le dernier modèle là, c'est 300 000 lunettes qui ont été vendues. Oui. Il y en a.
En plus, à un prix,
il y en a que 15% qui continuent à les utiliser.
Enfin, je veux
dire, c'est assez ridicule. Mm-hmm. Là, on voit, il y avait un exemple où effectivement, tu te balades dans la rue et tu regardes un immeuble et ça t'arrive très souvent. Ah tiens, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'histoire ? T'es obligé de chercher, sortir ton téléphone, etc. Bon, il y a effectivement ça t'embarque dans un environnement complètement augmenté, sans être intrusif, sans être complètement immersif et te couper effectivement de la réalité, oui. Sans qu'il y ait une barrière aussi avec les autres, puisque ça reste des Ray-Ban, donc des lunettes classiques. Maintenant, on va voir ce que vraiment ça va donner.
Mmh. Moi, j'y crois un peu, Hugo.
Ah, je suis un peu moins emballé que vous. Bah, je trouve que ça fait gadget encore un peu. Parce que tu as vécu ta vie au Japon dans ton sentier battu avec ton téléphone, quoi. Donc ça fait ce que fait ton téléphone, en fait. La caméra de ton téléphone. Donc je trouve que ça fait encore un peu.
Après, c'est des gadgets.
Après, il y a un public pour ça, ouais. C'est sûr. Il y a un marché. Je ne sais pas s'il est très grand. Il faut être très technophile comme Anthony Morel. Mais bon, je ne vois pas trop de vraies applications. Une fois que tu as.
Les deux, trois applications de traduction déjà.
Moi, une fois que tu peux traduire avec la caméra de ton téléphone. Donc tu vas avoir ta paire de lunettes pour traduire. Et puis après, en même temps, tu seras sur TikTok sur ton téléphone. Ouais. Tu vois, c'est un peu bizarre, je trouve, la multiplication.
Ouais, l'application dont je rêve, c'est de me rappeler quand je croise quelqu'un.
Qui sait,
je suis nul pour ça, j'ai un handicap comme ça. Ouais. Et après l'extra truc de quoi parler.
Ça, normalement, en vrai,
c'est quoi nos 10 dernières conversations
facilement. Ah
bah oui, complètement. Ouais. Je pense qu'on va vite avoir.
C'est bien, c'est pas trop intrusif ton truc, c'est bien.
Non, mais tu vois les gens que tu es censé connaître, hein, qui te reconnaissent et tu sais pas qui c'est.
Ou qui sont dans ta base de photos ou de.
Oui, ta paire de lunettes te rappelle de quoi t'as parlé la dernière fois que tu l'as vu et tout.
Non, ouais. Mais moi, je crois qu'on est dans la. Moi, souvent, ce que je dis, et je le disais quand le casque Vision Pro est sorti d'Apple, où il y avait plein de techno et tout ça, que à terme, j'imagine qu'un jour, ce seront les lunettes, un peu notre outil. On sortira plus forcément notre téléphone, parce que c'est vrai. Bah pour un trajet, pourquoi on sort notre téléphone? C'est pour un trajet, pour rappeler quelqu'un, pour quand on est en voyage, pour traduire, voir une information. C'est vrai que si les lunettes commencent à nous les communiquer.
En plus, quand on a de plus en plus de problèmes de vue, ouais. De plus en plus tôt, on va tous porter de plus en plus de lunettes. Donc
bon, voilà, allez.
Puis l'étape d'après, c'est de projeter directement sur la rétine.
Eh bien, on va suivre ça. Un dernier petit mot, il nous reste un peu moins de 2 minutes là. Je ne sais pas si vous avez vu cette news aujourd'hui. Vous connaissez tous ASML, hein, évidemment. C'est sorti un peu des limbes. Il n'y avait que les industriels qui connaissaient vraiment cette marque néerlandaise, mais qui est très présente puisque ce sont eux qui ont les machines à graver. Alors, quand je dis les machines, c'est à la taille d'un autobus. Hein. Quelqu'un chez Intel me disait on en a acheté une pour les États-Unis. On la démonte en deux. Elle fait 150 tonnes. On la démonte en deux pour la transporter en deux fois, on met 6 mois à la remonter, 6 mois à la paramétrer, hein, c'est-à-dire voilà, et puis ça coûte quelques dizaines de millions de dollars, mais derrière on peut faire du jusqu'à 2 nanomètres, enfin voilà, on peut aller très loin dans la technologie et donc prendre de l'avance sur les autres. Et bien c'est un Français qui était directeur commercial, il s'appelle Christophe Fouquet, et il vient de prendre la tête d'ASML. Alors il a beaucoup de défis à relever parce que là il est vraiment sous le feu des projecteurs. Alors il traverse un petit trou d'air parce qu'il y a eu un peu moins il y a eu un ralentissement des ventes de puces, donc du coup on en a moins fabriqués, donc du coup on a moins eu besoin de machines ASML, et c'est pas les machines qu'on achète tous les 2-3 ans, on en achète une pour plusieurs années, et donc voilà, donc on voulait parler de ça, parce que c'est rare d'avoir un Français, alors on a des Yann Lequin à la tête des laboratoires chez Meta, on a beaucoup de Français connus un peu partout, mais là un Français vraiment aux manettes d'un industriel dans le domaine, c'est plutôt une chose à remarquer, donc c'est ce qu'on voulait souligner ce soir. C'est quand même 20 000 non, ils sont 42 000 aujourd'hui dans le monde. Ils prévoient de lancer une autre. Ils sont basés à Eindhoven. Ils vont lancer une autre usine pour embaucher encore 20 000 personnes de plus là-dessus. Et donc voilà, on va suivre en tout cas l'aventure de Christophe Fouquet que l'on avait repéré chez BFM Business. On l'avait rencontré, alors pas ici, mais chez eux, il y a 2 ans. Il était directeur commercial. Ça fait 16 ans qu'il est là-bas. Et donc voilà, à la tête d'ASML. Bien, il me reste à vous remercier tous les trois. Perle Bago, donc directrice du Lab Institute, où ai-je mis mes fiches, voilà, je cite bien les bonnes fonctions. Alexandre Lebrun, cofondateur président de Nabla, et Hugo Borenstein, cofondateur président d'Omi. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.